Bonjour à tous, on est sur Radio Prévert 105.9. Je suis aujourd'hui avec Brandon.
Bonjour.
Salut
Kylian.
Brandon.
Bonjour Kylian.
On pense super fort à Théo qui a beaucoup participé à la préparation de cette émission et qui est malheureusement au fond de son lit aujourd'hui. Dans cette émission, je vais vous faire une chronique à propos de la vie au collège. Elle sera suivie par l'interview de Brandon qui interrogera un jeune rappeur très aigu.
Pour ma part, je vous présenterai ensuite la chronique que Théo avait préparée sur les réseaux sociaux. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter une interview autour du métier de comédien et de doubleur.
Et ce que vous n'attendiez pas, l'humeur des filles vue par Brandon. Et puis, on le retrouvera avec son deuxième invité, toujours dans le monde du rap, Damien Toporowski, un jeune du coin qui monte et qui nous fait l'honneur d'être présent au studio. Pour finir, deux interviews autour du sport et plus particulièrement du foot. Tout d'abord, et en direct, Aldo Angoula, joueur du club d'Evian Thonon Gaillard, club de Ligue 2. Et puis nous avons rencontré hier Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France de football.
On commence tout de suite avec Kylian.
J'ai décidé de vous parler de ma vie au collège. Je dois me lever tous les matins de bonne heure. Je commence par prendre mon petit déjeuner avant de prendre mon bus qui m'emmène à Chalon. Sur le trajet, j'ai un changement. Une fois arrivé à destination, je me rends à ma classe relais qui se situe au collège Jacques Prévert. Je fais partie des privilégiés car avant d'attaquer les cours, je fais une pause thé avec mes camarades. J'aime bien ce moment parce qu'on est réunis. Vers le midi, je me rends à la cantine pour aller déjeuner. Ce que je préfère manger là-bas, c'est des frites. Après le repas, je vais cinq minutes dans la cour où je joue avec mes copains et après on remonte pour recommencer les cours. Vers le milieu de l'après-midi, j'ai un entretien avec M. Tissier qui est éducateur de la protection judiciaire des jeunes. Une fois mes cours terminés, je vais prendre mon bus pour rentrer à mon domicile. Dès que je suis arrivé chez moi, je pose mes affaires avant d'aller dehors jouer avec mes copains. Ou alors je vais chez eux pour aller jouer à la console. Je rentre à l'heure du repas pour manger avec ma famille, puis je vais prendre ma douche pour aller me coucher à 23h avec la télévision allumée pour reprendre les cours le lendemain.
Accueillir sur Radio Prévert. D'où venez-vous ? D'accord. Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
Oui, 29 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ?
Ce qui m'a donné envie de faire de la musique, et notamment du rap. C'était un instant, en fait. Moi, j'écoutais beaucoup de musique depuis tout petit, j'écrivais. En fait, dès que j'ai découvert le hip-hop, le rap, j'ai associé mon écriture à la musique.
Vous avez commencé par chanter, alors ? Donc,
écrire du rap, quoi.
Quels sont les thèmes de vos titres ?
Alors, les thèmes de mes titres, c'est super large, en fait. Moi, j'ai deux univers qui ressortent beaucoup dans mon rap. J'ai un univers colérique et un univers mélancolique. Donc, mes titres ils sont basés sur des problèmes de société, en fait. J'ai un esprit critique dans ma musique. Et je pense que c'est ça, en fait, mes thèmes, quoi. Mes thèmes, c'est surtout la critique de la société, quoi.
Comment peut-on qualifier votre rap ?
Mon rap, c'est un peu comme je viens de le dire, hein. J'ai deux univers, j'ai un univers mélancolique, un univers colérique. Je fais un peu un mélange de tout ça pour faire une sorte de rap critique, mais j'essaie toujours d'être sensé et d'être sincère dans ce que je fais.
Pourquoi vous avez choisi ce style de musique ?
Parce que c'était une musique qui me parlait de par mon écriture déjà que je pratiquais quand j'étais petit. C'est tout de suite une musique qui m'a parlé de par l'exploitation des mots, quoi. Enfin, l'écriture. Pouvez... C'est une musique d'écriture un peu.
Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre le rap et le slam ? Comment créez-vous vos titres ?
Mes titres, je les crée à l'instinct. Dès que j'ai envie de le faire, je le crée. Dès que j'ai une motivation, dès que j'ai un thème dans la tête, dès que j'ai un truc, je l'écris. Et je l'enregistre direct, j'ai un autre studio chez moi qui me permet de pouvoir enregistrer tout ce que je veux quand je veux, à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quoi.
Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de vous faire aider par un compositeur ? Quelles sont vos influences ?
Les influences à la base ont été versées par IAM NTM, hein, je vais pas être très original. Moi franchement j'étais petit, c'était NTM, 93 Paris sous les bombes, IAM, l'école du micro d'argent, voilà. Mais après, j'ai tout de suite accroché avec la Funky Family, très très grand groupe de rap, voilà, qu'on n'entend plus trop actuellement, c'est dommage. Mais voilà, ils m'ont donné la force justement de pouvoir me lancer dans cette passion. Après j'ai beaucoup suivi de très près Kenny Arcana, parce que justement j'aime beaucoup son engagement, j'aime beaucoup sa révolte, hein, sa rage, hein. Ceux qui connaissent Kenny Arcana ils sauront, et moi franchement la Secret Connection, je trouve, voilà, c'est des groupes qui sont au top, ils sont indépendants, des mecs qui sont là depuis 20 ans, ils tournent, tu vois, avec des petits rappeurs, tu vois, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des moyens comme eux, qui n'ont pas de tourneurs, qui n'ont pas de label, qui n'ont rien du tout. Et moi, je trouve que des mecs, tu vois, comme Morat, Secret Connection, ou Koma, tu vois, Moclès, Haroun, hein, c'est des mecs et tout, ils sont super ouverts au niveau du rap. Ils sont encore venus, là, il y a quelques jours à Montpellier, pour une petite asso qui s'appelle Longueur d'onde, voilà, qui déchire bien sur Montpellier. Et voilà, et avec une bonne première partie. Et voilà, c'est des mecs qui sont super ouverts, ils viennent dans des petits lieux, ils s'arrêtent pas au Zénith et machin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais. Quel est votre chanteur préféré, donc ?
Eh bien, j'ai pas de chanteur préféré. parce qu'il y a tellement, de chanteurs, il y a tellement de rappeurs. Pff, je pourrais en citer des dizaines, des La Rumeur, Enfalch, Rossé, Demi Portion, sont à 7, là, juste à côté de Montpellier, qui déboîtent bien. Sur Genève, moi j'habitais du côté des Vianthonon pendant un petit moment. Sur Genève, il y a Gueule Blanche. Voilà. Moi j'aime bien le rap indépendant. À Montpellier, la Craps aussi, la classique, Nedois, Mélise, Monotov, Tueur en série. Enfin voilà quoi. Moi j'aime bien le rap indépendant. J'aime pas les grosses têtes d'affiches là qui se prennent la tête, les Roffs, les Boubas. J'ai même pas envie de les citer, tu vois.
Avez-vous déjà sorti un album ou plusieurs ?
Jamais encore. Jamais encore parce que ça prend du temps. C'est beaucoup de travail. C'est que quand tu crées un truc, il faut être super rapide. Il faut être super rapide pour pouvoir enchaîner et créer son truc le plus vite. Parce qu'après, le temps, il passe vite. Le temps passe super vite. Et voilà. Donc, en fait, moi, je suis plus sur... En fait, en ce moment, je me prends même pas la tête. Je veux pas faire d'album. Je veux pas te dire, ouais, tout, je suis sur un album, je suis sur une mixtape, tout. Rien du tout. Je suis dans la création. Je fais des petits morceaux à droite, à gauche, avec des gueules que j'aime bien, des trucs comme ça. Et peut-être, par la suite, on verra et tout, tu vois. Rien de prévu. Rien dire, mais ouais, il y aura des projets, je pense, il y aura des projets, mais pas pour tout de suite.
Oui. Faites-vous des concerts ?
Des concerts ? J'en ai fait beaucoup. Je peux pas te dire le nombre exact, là, pour le moment, je pense que je dois être à une soixantaine, un truc comme ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène. Mon premier concert, d'ailleurs, était à Chalon-sur-Saône, dans ta ville, tu vois, à la Péniche. Super salle de concert, à la Case des Lits, tout, franchement. Le 26 octobre 2006. C'était une saine découverte. Voilà. Ils m'ont beaucoup aidé. La péniche m'a beaucoup aidé. Et dernier concert que j'ai fait, c'était à Chalon-sur-Saône aussi, tu vois. C'est une région que j'aime bien, Chalon. C'était à l'Observatoire, je crois. Et c'était en octobre 2013. Voilà. J'ai rien fait en 2014. J'étais plus sur la création. Voilà. Pas trop de concerts, mais ça va se relancer. Là. Ça va se relancer sur Montpellier, je pense. Il va y avoir quelques dates. Ce sera... voilà. Puis je vais essayer de bouger et de revenir à Chalon-sur-Saône aussi pour voir les gens qui me suivent un petit peu là-haut.
D'accord. Pouvez-vous nous raconter le plus beau souvenir de votre carrière?
Le plus beau souvenir de ma carrière, j'en ai plusieurs, j'en ai plein. En fait, carrière, déjà, j'aime pas vraiment ce mot. C'est plus passion. Parce que carrière, pour moi, je l'associe aussi au fait de percer, tu vois, voilà, de gagner son argent de la musique. Moi, je gagne pas mon argent avec la musique. C'est très difficile de gagner son argent avec la musique. Moi, le mot carrière, déjà, je l'aime pas trop. Mais mes plus beaux souvenirs dans ma passion, ce sera, je pense, la première partie de la Secret Connection, c'était quelque chose vraiment d'énorme, hein, en 2012, à Chalon-sur-Saône, la péniche. Après, qu'est-ce que... Si, moi, j'ai eu plusieurs groupes, en fait. J'ai eu un groupe qui s'appelait le Forcing au début, donc casse dédié au Seum aussi, S2M, il se reconnaîtra s'il écoute. Et puis j'ai eu un groupe qui s'appelle La Révolte, voilà, avec Psylox et Scratchface. Je suis en série Scratchface, très, 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 très bon DJ, voilà. Et donc, voilà, moi... J'ai eu un bon souvenir aussi quand on est allé faire un concert à Évian-les-Bains, là-bas, à côté de Genève, vers la Suisse. C'était un très très beau souvenir. Voilà. Des bons souvenirs, il y en a de partout, les festivals. J'ai fait un jour, j'ai eu l'opportunité de jouer avec un orchestre harmonique. Alors, c'est un peu différent, mais c'est particulier, mais c'est super impressionnant d'avoir 35 musiciens derrière toi qui jouent. Donc ça, c'est un très bon souvenir aussi. Et voilà. Et si un très bon souvenir aussi, c'était un 21 juin où j'ai pu faire deux concerts dans la même journée. C'est une petite performance qui me laisse un bon souvenir. Voilà.
Et le plus mauvais?
Et le plus mauvais, il y en a un qui m'a marqué. Hein, c'est à Chalon aussi, Chalon-sur-Saône. Le Clos Bourguignon, voilà, sans commentaire. Scratchface, il se souviendra. Le Clos Bourguignon, c'était pas terrible.
Comment envisagez-vous la suite de votre carrière?
On se retrouve dans quelques instants après vous avoir fait découvrir le rap de Trazey.
Je tends le cou pour personne. Se serrer les coudes, moi je veux bien, mais au vieux compte, je tends les bras. C'est qu'un échange, bon procédé, qui bon l'achète, bon le toit recédé. Fausse promesse, les tenir sont deux. Les barrières sont grandes, l'honneur fait son dû quand tu prends l'amende. T'as bien mal acquis ta possession, fais ce que tu dois, y'a des coups de pression. Et puis tu bois, puis tu bois.
J'ai les principes bien ficelés sur un gros cœur d'acier. Demande à 13, c'est tendu dans ces rues de carnassier. Et mon pote, je tends la main, pas la joue. Juste une fois, je pleure pas, mais je l'alarme à l'œil. Juste quand tu me vois, te demande pas si je suis sincère. Si c'est ta gueule qui me doit, j'ai la conscience qui vocifère. Lucifer est à côté de toi, frérot. Garde la pastèque, même si c'est rempli de pépins. Demande à 13, on reste vrai du lundi soir jusqu'au dimanche.
C'est dans la confiance que naît la trahison.
N'est pas la clé de ton cœur sous le paillasson.
Un long silence vaut mieux qu'un court discours, brouillon.
Sois sincère si je le suis, ne déclenche pas le tout.
C'est dans la confiance que naît la trahison.
N'est pas la clé de ton cœur sous le paillasson.
Un long silence vaut mieux qu'un court discours, brouillon.
Sois sincère si je le suis, ne déclenche pas le tout.
J'ai le cœur qui serre, dealer cette fâche, je suis écœuré, discret comme un loup solitaire, je rôde dans la vie qui veut me chasser.
Mais tant qu'on n'est pas fracassé, qu'il y a du kiff à ramasser,
on sait jamais ce qui peut se passer.
La joie et l'envie sont trop espacées.
La trahison connue de tous, ouais, on se relèvera.
Personne te donnera de coup de pouce quand tu tomberas.
Ton bras c'est pas assez, ils veulent des idées cadenassées, fracasser la pensée, la censure a frappé.
La sincérité se fait rare, 13, on est des spécimens, on disparaît comme un spliff enfumé ou comme la marque.
Remarque la situation, précaire et le mode de vie, on se démarque malgré tout, et puis on reste unis.
Solidaire même si solitaire, face au coup dur on reste droit.
Au pays des lumières, l'obscurité reprend ses droits. C'est dans la confiance que naît la trahison.
N'est pas la clé, ton cœur se paillasson.
Un long silence vaut mieux qu'un court discours brouillon.
Sois sincère si je le suis, ne déclenche pas le tourbillon.
C'est dans la confiance que naît la trahison.
N'est pas la clé, ton cœur se paillasson.
Un long silence vaut mieux qu'un court discours brouillon.
Sois sincère si je le suis, ne déclenche pas le tourbillon.
On se retrouve comme prévu sur Radio Prévert 105.9 pour la suite de l'émission.
C'est pas le tout, Brandon s'impatiente, il veut parler, alors on l'écoute.
Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais parler des réseaux sociaux. En commençant par Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Facebook est né en 2004 à l'université de Harvard. D'abord réservé aux étudiants de cette université, il est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Mais Facebook ne s'arrête pas là. Il rachète aussi Instagram. Alors qu'est-ce que c'est Instagram? C'est une application et un service de partage de photos et de vidéos disponible sur toutes les plateformes mobiles telles que iOS, Android et Windows Phone. Elle fut créée et lancée par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Rager. Vu que j'ai parlé de Facebook, je vais bien évidemment parler de Twitter. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement des messages courts appelés « tweets ». Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Ewan Williams, Biz Stone et Noah Glass. Et lancé en juillet 2006, Twitter compte 316 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors Twitter n'ont pas acheté mais créé un autre réseau social, appelé Vine. Vine est un réseau social qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle. Restons dans la vidéo et parlons de YouTube. YouTube, c'est le géant de la vidéo et aussi le plus grand média social avec plus de 1 milliard de visiteurs uniques par mois. YouTube est tellement connu que des personnes en ont fait leur métier, on appelle ça des YouTubeurs. Il y a beaucoup de sortes de YouTubeurs, tels que les podcasteurs ou les gamers et les vlogueurs. Les réseaux sociaux, c'est bien car on peut parler ou bien raconter ce que l'on veut, mais les réseaux ne sont pas un jeu donc il faut savoir s'en servir. Merci de m'avoir écouté.
Merci Brandon. Moi, les réseaux sociaux, je les ai, mais je m'en sers pas souvent.
Tout de suite, Kylian va poser des questions à son invitée, Madame Andrès, comédienne et doubleuse.
Bonjour Elisabeth Andrès et bienvenue sur Radio Prévert.
Merci, bonjour.
Vous êtes comédienne, est-ce que vous travaillez seule ou en équipe?
Non, en équipe. J'ai un partenaire de jeu.
Quel est exactement votre travail au sein de la compagnie du Oui?
Ben, je suis comédienne et prof de théâtre.
Comment s'est fait le choix de ce nom, la compagnie du Oui?
Parce qu'on fait beaucoup d'improvisation et dans l'improvisation, on n'a pas le droit de dire non. Donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et puis oui, c'est positif, oui à la vie, oui à tout, on dit oui.
Pouvez-vous nous définir un peu plus précisément ce que sont l'improvisation et la clownerie?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah que vous nous expliquez précisément ce que sont l'improvisation et la clownerie.
D'accord. Alors, l'improvisation, c'est des petits sketchs qu'on fait instantanément. Le public donne un mot et avec ce mot, on fait un petit sketch de 3 minutes. Oui. Et la clownerie, ça fait longtemps que je n'avais jamais entendu ce mot. On est comédien clown de théâtre en fait. C'est pas de la clownerie de cirque, c'est des histoires, mais on est des clowns sur scène.
Pourquoi avoir choisi cette particularité de la comédie?
Parce qu'il faut rigoler et puis que c'est, ça me convient dans mon tempérament aussi.
Faites-vous des échauffements de voix avant les matchs d'improvisation ?
Ah oui, beaucoup, beaucoup.
Pourquoi ?
Parce qu'on a des cordes vocales et qu'il faut les... c'est des muscles. Et il faut les chauffer avant de parler. Et puis on peut faire des extinctions de voix, on peut perdre sa voix. Donc c'est important de les chauffer. Ouais.
Est-ce difficile de faire rire les autres ?
Non, non, pas pour moi.
Pourquoi ?
Ben parce que je... c'est dur hein, comme question. Dis donc, pourquoi c'est pas dur pour moi de faire rire ? Ben parce que je ne sais pas, c'est dans ma nature. Je fais rire, ben voilà, tu vois. Ou tu veux rire ou tu veux pas rire. C'est aussi simple.
Quelles sont les difficultés de l'improvisation ?
C'est de travailler en équipe, l'écoute, il faut beaucoup écouter, c'est la bienveillance des partenaires et ne pas dire non, voilà. Et puis avoir de l'imagination un petit peu.
Depuis combien de temps êtes-vous dans le métier ?
Ça fait 9 ans.
Quelles sont les personnes qui vous ont influencé ?
C'est mon prof d'improvisation dans le sud qui m'a dit de faire du théâtre, de l'impro, du clown.
Pourquoi ?
Pourquoi quoi ?
Bah, pourquoi elle vous a influencé ?
Parce qu'il m'a dit que j'étais faite pour ça et qu'il fallait que j'aille plus loin, que je me lance dans ce métier.
Vous avez aussi pu faire du doublage ? Est-ce que cela vous prend beaucoup de temps ?
Alors oui, c'est pour ça que je n'en ai pas fait plus, parce que déjà c'est sur Paris, et puis ça prend beaucoup de temps, et puis il faut répondre hyper vite aux demandes. Et comme c'est sur Paris, bah, c'est compliqué.
En quoi consiste exactement le métier de doubleur ?
Ah ben, c'est des films, par exemple, américains, et ils te passent ça sur une télé géante. Et toi, tu lis en français, c'est du playback, en fait.
Préférez-vous faire de l'improvisation ou du doublage ?
Non, de l'improvisation.
Pourquoi ?
Parce que je suis en relation avec le public et que je ne suis pas cachée. Et voilà, non, je préfère... Parce que le doublage, tu es un peu dans un bunker quand même, tu es enfermé. Tu n'as pas le regard des gens.
Avez-vous eu l'occasion de doubler des voix connues ?
Ratatouille. Voilà, c'est le cuistot.
Si vous pouviez choisir, quelle voix aimeriez-vous doubler ?
Alors, ça, je n'avais jamais réfléchi à cette question. Non, il n'y en a pas en particulier. J'aime beaucoup les dessins animés.
D'accord, merci.
Merci à toi.
Merci Kylian et merci Elisabeth Andrés pour votre présence ici dans nos studios. Chers auditeurs, vous pouvez... retrouvez Elisabeth Andrés et son partenaire Pascal Roubaud le 3 février prochain pour les Honorir, nouveau festival de découverte de l'humour à Givry. On vous laisse un instant en musique.
Deeper than I can't feel high, and I scream from the top of my lungs. 5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Nous revenons pour l'émission du dispositif relais sur Radio Prévert 105.9. Nous allons passer à la chronique de Brandon. Il a décidé de nous parler de l'humeur des filles.
Ça y est, c'est à moi. On y va sur l'humeur des filles. Tout d'abord, un petit point sur l'humeur. L'humeur est un état émotif et affectif qui peut changer la personnalité de quelqu'un, et je vous le dis en particulier des filles. J'ai constaté ceci sur la façon d'écrire leurs textos ou bien leur manière de parler. Les mots et le ton peuvent être doux ou agressifs. Puis encore leur comportement, se tenir la discussion. Par exemple, je suis contente, je suis triste, je suis amoureuse, je suis stressée. L'humeur change constamment, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Je constate souvent que l'humeur peut tout faire basculer chez la fille, c'est-à-dire qu'elle peut rigoler avec moi et dans la minute ne plus vouloir me parler et m'envoyer bouler. L'humeur respecte une courbe très spéciale, on parle de courbe de l'humeur, qui est donc propre à la personne. On peut distinguer 4 principaux types d'humeur. Être heureux, être amoureux, être triste, être en colère. L'humeur peut être liée au mode de vie, à l'appétit. Si on est fatigué, on risque de s'énerver facilement, ou bien de pleurer, ou bien on a envie d'être seul. Si on a faim, on peut devenir agressif, ou au contraire tout mou. Si l'humeur des femmes reste incomprise par les hommes, c'est parce qu'ils sont incapables de deviner leur humeur, mais aussi parce qu'elles n'expriment pas toujours leurs émotions. On y gagnerait si elles nous disaient ce qui va ou pas, clairement avec des mots. J'ai remarqué aussi que pour discuter avec les filles, il vaut mieux attendre que leur émotion soit retombée, sinon une fois sur deux, on se fait envoyer sur les roses. Maintenant, quelques conseils, les garçons. Pour mettre une fille de bonne humeur, soyez galants et attentionnés, ouvrez-leur la porte, faites-leur une remarque gentille sur leur tenue, leur coiffure, évitez de regarder les autres filles, soyez francs et honnêtes avec elles. Et pour ceux qui sont en couple, un petit déjeuner préparé, un petit coup de main pour le ménage, c'est toujours apprécié.
Merci Brandon, il est temps d'accueillir par téléphone un nouvel invité, Aldo Angula, joueur de foot professionnel dans le club d'Evian Tonon Gaillard en Ligue 2.
Bonjour Aldo Angula, ça va ?
Bonjour, ça va et vous ? Vous allez ?
Oui.
Pourquoi avez-vous choisi de faire carrière dans le foot ?
J'ai d'abord joué en bas de chez moi avec mes amis. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un métier. Mais à la base, c'est vraiment une passion.
Quel est votre poste au sein de votre équipe ?
Comment ?
Quel est votre poste au sein de votre équipe ?
Alors voilà, je me présente. Donc je suis défenseur central. Donc à l'Evian Tonon Gaillard Football Club, un club de Ligue 2 qui était en Ligue 1 l'année dernière et voilà, donc je suis défenseur central.
Vous jouez à Evian Tonon Gaillard, quels sont les points forts de votre club ?
Alors les points forts de notre club, donc je pense que les points forts de notre club sont la défense justement, on prend pas beaucoup de buts et on n'en marque pas beaucoup mais voilà, ça va s'améliorer. On essaie de s'améliorer tous les jours pour essayer de marquer plus de buts et puis essayer d'en prendre encore moins.
Comment se passe la relation avec vos coéquipiers et le staff ?
Alors, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Dans le foot, les relations sont souvent que d'une année ou voire de deux, suivant le contrat de chacun. Donc ça permet quand même d'aller du temps pour apprendre à se connaître. Et en général, il y a quand même une bonne ambiance. Et c'est aussi dans le sport les résultats qui font l'ambiance. Donc voilà, quand on a un peu de résultats, en général, ça se passe très très bien. Après, ça peut arriver qu'il y ait deux trois joueurs qui chamaillent. Mais bon, ça rentre vite dans le rang parce qu'on est en groupe, on sait qu'on est au moins une année tous ensemble, donc on est obligé de bien s'entendre.
Pouvez-vous nous raconter votre quotidien de footballeur ?
Alors mon quotidien, c'est un entraînement le matin. Donc le matin, moi j'ai des enfants. Donc j'ai deux enfants, le matin j'amène mes enfants à l'école. Je file ensuite directement au centre d'entraînement pour m'entraîner. En général c'est de 9h, j'y suis de 9h jusqu'à midi. Ensuite le midi, je rentre manger chez moi et je fais la sieste de l'après-midi, un petit repos, une demi-heure à peu près. Je ne le fais pas tout le temps, mais souvent je la fais, cette sieste. Et ensuite, à 4h30, je retourne chercher les enfants à l'école. Et voilà, je profite d'eux le soir. Et le lendemain, je retourne à l'entraînement. Donc ça, c'est sur la journée. Après, concernant la semaine, nos semaines sont rythmées souvent de la même façon. En fait, on a un entraînement le lundi matin, un entraînement le mardi matin, voire deux. On double les entraînements le mardi. Sinon, le mercredi, on prend un entraînement. Le jeudi aussi, un entraînement. Tout ça le matin. Et le vendredi, on a le match. Et le week-end, en général, on est libre.
Elles se ressemblent toutes ou il y a des semaines plus intensives?
Oui, exactement. En fait, on a une personne qui est au club qui est chargée de la préparation athlétique. Donc qui rythme les semaines d'entraînement et c'est vrai que on a des cycles d'entraînement un peu plus intensifs que d'autres, donc on va laisser beaucoup plus d'énergie dans l'entraînement que dans le match, mais c'est prévu pour pouvoir jouer toute la saison et bien finir les matchs.
À quel âge avez-vous commencé votre sport?
Alors moi j'ai commencé le sport 6-7 ans. Je parle en club, hein, parce qu'avant je jouais déjà comme ça avec des copains quand j'étais vraiment tout petit. Mais sinon, en club, j'ai commencé à 6-7 ans. Et voilà, après, donc je joue depuis. J'en ai 34 ans aujourd'hui. J'ai 34 ans aujourd'hui.
Quel a été votre premier entraîneur?
Alors, mon premier entraîneur, il s'appelait Jean Le Bossé. Et moi, donc je joue à Évian-Thonon Gaillard, qui est en Haute-Savoie, et je suis originaire du Havre, qui est en Haute-Normandie. Et donc c'était dans un petit club à côté de chez moi. Et donc mon premier entraîneur a été Jean Le Bossé, il s'appelait Jean Le Bossé. Et d'ailleurs j'ai revu récemment, je le vois souvent quand je rentre au Havre, et on discute un petit peu, il donne toujours des conseils par rapport à ce que je fais actuellement en Ligue 2.
Avez-vous toujours fait ce sport?
Alors oui, j'ai toujours fait ce sport, sauf que quand j'étais plus jeune, j'avais dû avoir 15 ans, 14-15 ans, j'ai fait du handball aussi en même temps, donc je faisais les deux sports, j'arrivais à cumuler les deux sports, j'ai dû en faire deux ou trois ans du hand, donc voilà, pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait du hand le samedi et du foot le dimanche. Mais ça m'allait parce que j'avais besoin de me dépenser, donc ça m'allait parfaitement.
À quel moment cela n'a plus été un loisir, mais un métier?
Alors, j'ai un parcours assez atypique, dans le sens où j'étais professionnel à l'âge de 26 ans, donc ce qui est assez rare parce qu'en général, les professionnels, enfin, les contrats professionnels, les joueurs signent à l'âge de 20 ans à peu près, entre 18 et 21 ans. Et donc, professionnel à 26 ans, donc j'ai connu le footballeur jusqu'à 26 ans. Et ensuite, c'est un foot professionnel depuis je suis dans le foot professionnel, voilà.
Qu'est-ce qui vous donne l'envie de jouer?
Alors, l'envie de jouer, c'est la passion. C'est la passion. Je suis un passionné de football depuis tout petit. Donc c'est ça qui me donne l'envie de jouer. Et puis après aussi, c'est aussi me perfectionner. Et puis j'aime aussi toutes les valeurs qu'il y a autour du football, même si on n'a pas tout le temps des bons exemples quand on regarde les matchs à la télévision. Mais souvent il y a beaucoup cette notion de respect dans le... sur les terrains de foot, il y a cette notion aussi de persévérance, enfin voilà, on voit des joueurs aussi qui vont au bout de leurs efforts, donc c'est tout ça, c'est le goût de l'effort en fait, et puis le respect des coéquipiers, des adversaires aussi.
avez-vous un club favori?
Alors oui, j'aime bien Paris Saint-Germain. J'aime bien Paris Saint-Germain. Et si on, pour Paris, c'est du club. Mais sinon, moi, mon club de cœur, c'est Liverpool. C'est un club de première division anglaise. Donc, j'ai toujours apprécié Liverpool, ne serait-ce que pour leurs supporters et puis toute l'histoire aussi de ce club.
Avez-vous une marge de progression?
Alors, on a toujours une marge de progression, peu importe l'âge. Donc, je pense que oui, j'ai une marge de progression. On va dire que cette marge de progression est un peu plus réduite que pour un jeune joueur. Parce que, comme je le répète, j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un peu moins de marge de progression qu'un jeune joueur de 18 ans. Donc, je peux vous dire que j'ai une marge de progression.
Le respect dans le foot, c'est quoi?
Le respect dans le foot?
Oui. Bah,
le respect dans le foot, c'est avant tout respecter ses adversaires, respecter ses coéquipiers. C'est aussi respecter son entraîneur, parce que dans le foot, comme dans n'importe quel autre sport et dans n'importe quelle autre discipline, on a forcément un cadre à respecter. Et dans le foot, il faut absolument respecter ce que l'entraîneur dit. Et voilà, donc le respect pour moi, c'est être à l'écoute et surtout appliquer ce qui doit être appliqué.
Merci Monsieur Angoula d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On continue notre émission avec un invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler de rap. Bonjour Mojo.
Hey.
Bonjour Damien.
Salut.
Excusez-moi. Nous avons pu tout à l'heure découvrir un rappeur montpelliérain. Pouvez-vous nous dire de quelle région vous venez?
Bah alors moi, à la base, en plus, c'est totalement contraire au rap, on va dire. Je suis un rappeur compagnard. J'ai un de Saint-Désert à la base. Et donc là, ça fait 4 mois que je suis installé à Chalon. Donc voilà, on peut dire, je pense, maintenant un petit rappeur chalonnais. Voilà.
Vous êtes donc un jeune artiste local?
Voilà, c'est ça, totalement.
Comment en êtes-vous venu au rap?
Bah en fait... J'ai même pas l'impression d'en être venu, sachant que depuis mes 8 ans, je veux dire, j'écris des textes, que ce soit des poèmes, des slams, je veux dire, même des petits raps. Je veux dire, tu pouvais me voir déjà à 12-13 piges avec des potes en train de rapper dans des toilettes publiques, tu vois. C'est depuis le début que je suis comme ça un peu.
Pourquoi ce mouvement musical et pas un autre?
Bah parce que c'est un mouvement qui est vachement libre en fait. Tu prends d'autres musiques, je veux dire le classique... Le métal, le reggae, il y a plein de choses maintenant, je veux dire, où on va pas forcément être libre, selon moi, alors que le rap, disons que c'est brut de décoffrage, tu vois. Tu vas pouvoir sortir avec tes mots, avec ton rythme, avec ta façon de construire les choses, et ta façon de voir les choses, surtout la société contemporaine, en gros. Voilà, avec tes mots, tu vas pouvoir sortir ce que tu veux, quoi. C'est vraiment très libre, et puis c'est une façon de rythmer, je veux dire, qui me fait bien groover, quoi. C'est un truc dans lequel je m'inscris bien, quoi.
Quel style de rap vous préférez adopter?
Bah en style de rap, déjà, je dirais pas trop la trap. Parce que, tiens, je vais en parler vite fait, c'est un truc qui me dérange un petit peu en ce moment, cette vague trap, un petit peu le fait justement d'arriver à l'essentiel, mais pour dire des choses qui selon moi, dénigrent un petit peu les notions de respect qu'on avait dans le hip-hop, tu vois?
Pourquoi?
C'est beaucoup d'insultes gratuites, on va dire. C'est beaucoup d'ego trip qui n'a pas forcément lieu d'être des fois. Je veux dire, l'ego trip, c'est super sympa. Hein. Je vais te citer, Orelsan, tu vois, par exemple, qui va en faire dans 2010, dans un de ses sons du Chant des Sirènes. Et tu vois, le mec, il va le faire super bien. Mais parce que derrière, il a déjà fait ses preuves. Il y a trop de mecs maintenant, tu vois, qui se revendiquent rappeurs, trappeurs, en gros, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose, et puis je veux dire, ils n'arrêtent pas d'en sortir des masses, et puis moi, ça m'exaspère, ce genre de choses. Je suis plus dans le mouvement hip-hop en soi, quoi, tu vois.
Comment le rap hip-hop dont vous venez de nous parler est-il représenté en France?
Bah, représenté en France, tu vois, avant, c'était beaucoup, comment dire... Ouais, le rock, les trucs comme ça, tu vois, j'allais dire les berruriers noirs, mais c'est encore un autre délire, tu vois, c'était... Toute l'époque Nirvana, tous ces trucs-là, je veux dire, où le rock, il était beaucoup présenté. Maintenant, le rap, il a vraiment une grande importance. Je veux dire, en France, tu regardes le classement numéro 1 sur iTunes ou quoi, Tu vas voir Nekfeu, tu vas voir Jul, tu vas voir Caris, ouais, Gradure, tu vois tous ces mecs-là. Tu sais, ça nous fait délirer, mais maintenant, c'est vraiment, il y a quasiment que le rap, en fait. Ça prend une grosse place, je pense, dans la société, et même si des fois, c'est un petit peu, comment on va dire, controversé sur par exemple, tu vois, Lino, il avait été interdit de concert pour propos un peu choquants, alors que pour moi, c'est un grand lyriciste du rap français, tu vois. Aurel San, pareil, tu vois, j'y reviens. C'est un bon exemple, je l'aime bien ce gars, tu vois. Qui avait été interdit de concert pour une vidéo qu'il avait fait sur qui s'appelle Sale Pute, on va le dire, tu vois, qui en gros était sur il s'était fait tromper par sa meuf et caricaturalement, je veux dire, il sortait des trucs qui étaient très bruts, tu vois, comme je disais tout à l'heure, mais je veux dire, sous prétexte que ça passe pas pour un certain public ou pour des jeunes des fois qui peuvent écouter, car maintenant c'est très élargi, tu vois, des mecs de 10 ans jusqu'à je sais pas combien d'années, tu vois, ils peuvent écouter du rap. Bah, en gros, voilà, je veux dire, vu que tout le monde écoute maintenant un petit peu ce délire-là, on peut plus se permettre de dire certaines choses. Et vu que le rap, je disais avant, tu vois, c'était quelque chose de très libre, des fois, on peut être un petit peu censuré. Mais bon, ça prend quand même une grande place dans les médias maintenant, je pense.
Quelles ont été et quelles sont vos influences ?
Mes influences... Alors, je parle beaucoup d'hip-hop, mais je suis pas du tout rap US. Déjà parce que la moitié des choses, je les comprends pas. Pourtant, je parle un peu anglais, mais franchement, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère le rap français, tu vois. Je ne vais pas revenir vraiment aux sources parce que, tu vois, je pourrais te parler d'NTM, Assassin, Arsenic, tu vois, tous ces mecs-là, vraiment, j'ai kiffé, tu vois. Ils étaient super bons. Et surtout, avant, c'était du rap qui était très contestataire, tu vois. Tu avais beaucoup de trucs, fuck la police, tout ce genre de trucs, tu vois, qui n'est pas du tout dans mon délire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait, vraiment bien kiffer. Après, maintenant, je suis plus dans une période, je suis revenu un peu sur Cynic en ce moment. J'écoute beaucoup Casseurs Flotteurs, là, parce qu'ils ont ressorti justement leur un film et puis un nouvel album. Je kiffe bien Vald aussi, il est dans un bon délire. Il est un peu bizarre, ce mec, en fait, il est un peu étrange. Puis sinon, bah, quand j'ai envie de m'ambiancer, Caris, Gradure. J'écoute bien aussi la petite mixtape d'Alonzo en ce moment. Et puis, sinon, voilà, hein, je veux dire, c'est un peu dans ce délire-là. Je pourrais t'en citer pendant des heures, mais je veux dire, c'est vraiment les principaux en ce moment qui me font bien réagir.
Quel est votre rappeur préféré ?
Mon rappeur préféré, bah regarde, je vais y revenir une troisième fois, c'est Aurel San. Pour le coup, c'est même pas parce que je suis un petit babtou et puis que lui aussi, tu vois, c'est juste que dans le délire, sérieusement, c'est sa construction rythmique, déjà, que j'adore, tu vois. Le fait qu'en prose, il soit aussi bon qu'en rime. Que le mec, tu vois, il arrive à te sortir des thèmes, mais genre, par exemple, sur l'alcool, sur une double vie, tu vois, avec les femmes, il te parle vraiment de tout, ce mec, tu vois. Alors que finalement, généralement, on peut aborder des thèmes qui vont être, comment dire, plus récurrents, par exemple, la drogue, je veux dire, le sexe, ce genre de choses, quoi. Que Aurel San, je veux dire, vraiment, il part sur des délires. Ou des fois, tu te dis, mais waouh, comment il a réussi à écrire un son sur ce genre de petites choses, quoi.
De quelle manière écrivez-vous vos textes ?
Bah, il y a des mecs, des fois, ça va venir comme ça, direct. Moi, je sais que franchement, je vais me poser pendant, 2 heures. Je vais écouter la même instru, mais je vais l'écouter mes 100, mes 50 fois, je vais la ravager. Et au bout d'un moment, ça vient tout seul. Il y a le rythme d'abord qui vient. Je veux dire, par exemple... Tiens, je prends un exemple, là je suis éclaté en fait, je sors de chez Donna, tu vois, je travaille à Donna en ce moment et puis je fais des nuits, et en gros, hier j'arrêtais pas de voir que des regards vides, des gens qui étaient fatigués et tout quoi. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, je suis allé en pause, pendant une demi-heure je me suis fumé des clopes et puis j'ai écrit mon truc quoi. Après je suis rentré, je l'ai mis un petit peu en rime, vas-y je vais en faire un son si ça se trouve, tu vois, en parlant sur l'emploi, sur la difficulté, ouais, des petits jobs quand t'as pas vraiment de qualification, on va dire, dans la vie. Et voilà, ça vient comme ça. C'est instinctif. Autant des fois, tu vas pouvoir sortir un brut de texte comme ça, un truc de fou. Autant des fois, si ça vient pas, par contre, tu peux écouter 40 000 instrus, bah ouais, tu vas en revenir au même, quoi.
Comment vous fait connaître ?
Bah, fait connaître, je peux même pas dire que je suis connu, en vrai, franchement. Là, c'est le début. Bah, justement, j'en parle. Le 16 janvier, j'ai prévu, ça fait 3 mois que je bosse dessus maintenant, que je vais faire un clip open mic, on va dire, en fait, à la péniche. Voilà, où j'ai prévu tous les trucs. Ça va être le 16 janvier, d'ailleurs, voilà. Il y aura d'autres open mic, mais après, j'y reviendrai, voilà. Et en gros, ça, c'est, j'ai prévu vraiment de faire ce clip en fait pour me promouvoir en quelque sorte. Ça va être vraiment bien dans mon délire, voilà, dans le délire un peu fun et tout, même si j'écris aussi des fois des trucs un peu plus sad et conscient. Mais voilà, ça va être le début, on va dire, pour moi de mon entrée dans le rap.
Avez-vous déjà fait de la scène?
Ouais, j'ai déjà fait de la scène. J'ai fait 2-3 open mic. J'ai fait le, tu vois, c'était vite fait. Après, tu vois, c'était le Refus de la Misère le 17 octobre. J'avais fait aussi le Festival Émergence. C'était vachement sympa, ça. Moi, il y avait pas full à fond, quoi. Il y avait 250 personnes, mais rien que pour un début, tu vois, c'était devant 250 personnes et tu te livres, tu vois. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un bon petit début, histoire de te mettre la pression un peu, quoi.
Qu'avez-vous ressenti?
Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ouais. Franchement, un stress de fou. T'es derrière, t'entends tout le monde, là d'un coup ça fait mojo. Et bah je peux te dire que franchement, quand t'arrives sur scène, tu les as, tu sais où elles sont, quoi, tu vois, c'est... Ouh, ça fait bizarre, quoi, ça fait bizarre. Mais bon, c'est une super sensation, tu vois.
Vivez-vous de votre passion?
Absolument pas. Mais je veux même te dire que je suis grave en déficit, là. Là, pour te dire, voilà, le clip... que je te dis, ça fait 3 mois, ça fait... En tout, il va me coûter 3 800 €. Il y a une équipe de tournage qui est prévue, des ingénieurs son, ingénieurs lumière, il y a beaucoup de tech de fait, tu vois. De la costumation, plein d'éléments comme ça. Ça a coûté vachement cher, en fait, mais bon. Après, c'est pareil, c'est ma passion. Tu vas parler à un mec qui fait de la motocross, il va s'acheter une moto, moi, je m'en fous, je me fais un clip, tu vois.
Quelle est votre actualité?
Mon actualité? Bah, mon actualité, justement, voilà, c'est le 16 janvier où vraiment il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Sinon, un petit truc aussi que j'ai appris il y a 3 jours, ça me fait plaisir. Je fais la première partie de L'Homme Pâle, un bon rappeur parisien à l'écouter, le 6 février, pareil à la Péniche. Donc ça va bien kicker et tout, faites-vous plaisir. Et puis c'est pas cher. Et puis autrement, il y aura un open mic aussi qui va se faire à la Maison Verte, tu vois, avec l'espace jeunesse, voilà, qui va être en février ou en mars. On essaye de voir encore un petit peu pour la date et puis pour les prévisions, quoi.
D'accord.
Mojo, est-ce qu'on peut abuser et vous demander un petit freestyle pour le Dispo Relais?
Bah, bien sûr. Attends, ça fait plaisir. Depuis que je suis marre, moi j'ai le rap dans la tête. Mec, je peux pas m'en séparer comme un gros lard sans d'année. Tête que j'ai les cartes en main, sauf que je suis limitement chaud. A chaque fois que je me roule un joint, je me dis c'est un stick en trop. Je suis un mec tendre aux allures indécentes. Je m'assure d'être un mec stable pour soulever des belles jambes. Je m'amuse avec le diable sans jamais verser de sang. Je suis ce gamin minable incessant, pire qu'infatigable oppressant. Dans ta reste-toi, je suis bourré comme un cheval de course. Au micro, je déboîte, écarte les voix qui libèrent la force d'un ours. Je repère un rond de danse, il me faufile pour clasher le breaker. Et même si je sais pas danser, on me dit, mon dieu, c'est toi le meilleur. Les femmes en boîte, c'est comme les pets mal roulées. Pour la plupart, elles sont moches, mais faciles à allumer. Y'a aussi des karatékis qui viennent seulement pour se taper. On va te mettre dans le congélo comme un enfant non désiré. Vas-y, jump, jump, sans perdre ton pantalon. Mets des crumps, crumps, au lieu de tes grands talons. Viens pas jouer les grands garçons, si tu bégères en un whisky. T'es comme une meuf qui suce des chibres après un verre de martini. Je roule les mots et les manies, moi-même c'est le méli-mélo de la mélomanie. Je mène une vie démentielle malgré le manque de sommeil qui me nuit. J'ai la mort, c'est la vie, j'élabore des rimes qui brisent les corps et les mets au tapis. J'ai la force de l'esprit, transforme les filles, fais bouger les corps comme Chef Mamie, gros. 1 Check. Je fais partie de ces jambes roses aux vives couleurs. Infime douleur qui me caresse l'esprit quand je rime, tout meurt. Douleur, stratagème pour faire du fric, pécœur. Et 2016, il serait peut-être temps que je trouve un beatmaker. Quand je gratte comme un chien bloqué au palier, mon écriture sans les cris furent et les stigmates de mon passé. J'ai jamais donné la patte, mais l'étendue pour le chèque de loyer noyé dans un 20 mètres carrés, l'étendue pendue de mes pensées. Je suis un expert mec, la flemme d'un canet, souvent dans la nuit je erre, espère pouvoir m'en aller. Et sans la folie d'une caisse claire, je perds l'envie de m'étaler comme un vieil ordi en pleine mer. J'ai tendance à ramer, c'est la tristesse des contentieux qui me poussent dans des accès de rage. Le kamehameha des aléas m'a trop poussé dans le feu. J'ignore tout ce monde. Dis pas que t'es visionnaire si ton point de vue des choses se résume dans ta zone pavillonnaire. Je reste quasi honnête, mec, crois pas que je te baratine, mais chaque matin je me lève avec autant de secrets qu'un journal intime. Puis je regarde le monde autour de moi et je pète les plombs, je tourne en rond comme un tourbillon dans un trou sans fond. Le ballon d'or ne sert à rien sans but. Ma vie est une pièce de théâtre dramatique et elle attend ma chute. La sagesse m'éduque, mais je fais plus d'études. Plus facile de racoler la fume, cricole t'es la thune. Dans l'ivraie je me pose, collage et j'allume. Tous mes mots partent en fumée et viennent renforcer mes lacunes. Alors j'emmerde et j'assume tous ces bâtards en costard qui récompensent les pressions en nous définissant smicard. Je coule dans mes déboires, fatigué d'être seul. Combien de mes proches seront présents pour porter mon linceul? Ici bas, tous payent, alors prépare ton portefeuille. Porte l'œil sur tes actions, fais pas le con ou porte le deuil. qui je suis, l'ami la nuit c'est l'insomnie. Mais on cache pas ses cicatrices par des rimes de petites actrices. Je veux mettre fin à mille caprices car les filles qui m'attirent m'attristent. A chaque fois que je me sens progresser, je vois que ce putain de vide arrive. Un jour le ciel va m'emporter, mais avant de partir j'y serai une lettre sous vos porches. Et j'espère ne pas manquer à mes proches. Si les meilleurs partent en premier, je resterai gravé dans la roche, cousin. Freestyle Jack Prévert.
êtes toujours sur Radio Prévert dans l'émission préparée par le dispositif Relais. Nous avons eu la chance hier de rencontrer Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens de foot de l'équipe de France. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Prévert 105.9. Nous accueillons aujourd'hui un invité très spécial, Franck Ravio. Vous êtes l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Avant de revenir sur votre rôle de parrain et votre venue ici aujourd'hui au Collège Louis Aragon, nous aimerions vous poser quelques questions sur votre profession. Comment devient-on entraîneur des gardiens de l'équipe de France ?
Eh bien, nous devenons entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France par le travail, par la constance. C'est un poste qui est merveilleux, c'est le Graal. C'est quelque chose qui est extrêmement merveilleux à assumer. Le plus dur, c'est de durer. Donc il faut être constant, il faut être régulier dans sa performance.
Combien de temps travaillez-vous avec l'équipe de France ?
Alors, il y a deux phases. Il y a la phase visible lors des stages, lors des rassemblements, où nous préparons les matchs internationaux, où nous préparons les compétitions internationales, et il y a l'invisible, ce que le grand public ne voit pas, ne sait pas, mais il y a tout ce travail de préparation et d'observation, observation des adversaires potentiels et observation des joueurs qui seront sélectionnés par le sélectionneur Didier Deschamps.
Que faites-vous quand vous n'entraînez pas ?
Alors, lorsque je n'entraîne pas les gardiens de but de l'équipe de France, j'ai d'autres missions à la direction technique nationale. Je suis en charge des jeunes gardiens de but de l'Institut national du football. Je suis chargé de mission également pour encadrer et former des entraîneurs de gardiens. Donc voilà, mes casquettes et mes missions sont nombreuses et multiples.
Est-ce une fierté d'entraîner l'équipe de France ?
C'est une grande fierté, c'est un grand, grand privilège, comme je vous l'ai dit. C'est tutoyer le sommet des sommets, c'est accompagner dans leur performance, dans leur préparation, les meilleurs gardiens de but de l'élite du football français.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est... C'est une mission, c'est un devoir qui nous incombe de pouvoir amener à bien ces gardiens de but dans leur performance et de leur permettre d'apporter ce qu'ils doivent apporter à la grande équipe de France qui est très très exposée sportivement, médiatiquement et au regard de tout un peuple, de tout un pays et même du monde entier.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Ce qui me plaît le plus, c'est l'esprit de compétition, c'est de pouvoir transmettre, c'est de pouvoir donner, c'est de pouvoir apporter une plus-value, d'être une valeur ajoutée auprès de joueurs qui sont déjà des experts de leur poste et qui sont déjà des joueurs de renommée internationale.
Qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Le plus difficile, c'est d'être régulièrement performant et constant. Ça impose un travail important au quotidien. Ça impose de se remettre en question au quotidien pour amener le meilleur possible à ses joueurs, pour donner le meilleur de soi-même à ses joueurs et pour les aider une fois de plus à être le plus compétitif possible.
Qui choisit les gardiens ? Avez-vous votre mot à dire ?
C'est une concertation régulière entre le sélectionneur national et moi-même, qui suis en charge de la préparation et de l'entraînement des gardiens. Je l'informe un maximum de ce que je vois, de ce que je perçois, de ce que je remarque, de ce que je constate. Et lui est le décideur... Au final, c'est lui qui prend la décision finale, sachant que moi je serai toujours entièrement solidaire de cette décision.
Quelle est votre relation avec le sélectionneur ?
Elle est excellente. Elle est parfaite. Elle est faite de beaucoup de respect. Elle est faite de beaucoup d'échanges. Elle est faite de beaucoup de partage. Et elle est faite d'une grande sincérité et d'une grande loyauté également. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir côtoyer ce grand entraîneur et ce grand homme qu'est Didier Deschamps.
Les gardiens sont-ils déjà excellents quand ils arrivent ou bien ils le deviennent grâce à vous ?
Ils sont très bons. Ils sont très très bons puisqu'ils sont, ce sont des internationaux en puissance. Moi, je ne fais que prendre le relais de mes confrères, de mes collègues des clubs qui, au quotidien, font également un travail remarqué, remarquable. Moi, je fais en sorte d'accompagner les gardiens de but et de ne pas les dérégler dans leurs habitudes et dans leur mode de fonctionnement, les accompagner pour leur permettre d'être au maximum de leur potentiel le jour J.
Comment aidez-vous les joueurs à progresser ?
En positivant un maximum, parce qu'il est important de positiver, il est important de les mettre dans une bulle de confort et dans un état de quiétude et de sérénité, développer chez eux également cette détermination, cette force vive qui doit les pousser à être les plus performants possibles le jour du match ou les jours de match, en leur proposant un entraînement et un travail adapté.
Et mentalement, comment faites-vous pour qu'ils ne baissent pas les bras en cas de défaite ?
La défaite fait partie du sport, la victoire fait partie du sport, la défaite fait partie du sport également. Les aider à se relever, les aider à relever la tête, les aider à positiver également, parce que dans chaque épreuve difficile, dans chaque échec, dans chaque défaite, on doit tirer des enseignements pour être meilleur le match suivant et pour pouvoir se rediriger vers la victoire.
Merci Franck pour toutes ces précisions. Revenons maintenant à votre rôle de parrain.
Pour quelles raisons êtes-vous présent ici, aujourd'hui, à Châtenois-le-Royal et au collège Louis-Aragon ?
Parce que je suis ici pour continuer à transmettre, pour continuer à partager, pour continuer à donner de ma passion et de ce qui m'anime au quotidien à travers des valeurs qui me sont fortes et qui me sont chères. Nous avons débuté une aventure commune avec la section sportive. Ce n'était pas pour l'abandonner, ce n'était pas pour l'occulter ou la laisser de côté, bien au contraire. Il y a plein de choses qui sont mises en place par le chef d'établissement, par Franck Courdier également, le responsable de la section sportive. Et je veille à travers ma présence, à travers mon écoute, à ce que tout se passe bien, parce que je suis fier de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre pour faire perdurer et pour embellir cette section sportive.
Comment vivez-vous ce rôle de parrain ?
Pleinement, passionnément, parce qu'autrement je ne serais pas là aujourd'hui. Je le vis intensément aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai pas pour l'habitude de m'engager dans un projet, dans une mission, et puis de faire volte-face du jour au lendemain, bien au contraire. Donc c'est à chaque fois un moment de plaisir d'être présent ici, de partager des moments de réelle sincérité. Voilà, à nous de continuer à avancer sur ce même chemin de nombreuses années encore.
Est-ce que l'ambition passe au-dessus du respect ?
Non, ce sont des valeurs qui sont intimement liées, le respect, l'ambition, le travail, toutes ces valeurs, toutes ces vertus qui sont fondamentales à la réussite de chaque individu. Je pense que le respect, c'est un socle qui est incontournable. L'ambition, c'est un booster, c'est un moteur dans une vie. Les deux sont intimement liés.
Est-ce que la réussite sportive, ce n'est que la victoire ?
La réussite, c'est la victoire, mais la réussite, ce n'est pas que la victoire. On peut réussir après un échec, après une défaite. Il faut savoir se relever, il faut savoir ne pas baisser les bras, il faut savoir se fixer de nouveaux objectifs. La réussite, c'est la victoire, forcément. Il n'y a rien de plus beau que de gagner, que de remporter des titres, que de remporter des victoires, que d'avoir l'impression et la sensation d'avoir abouti sur un projet. Mais il n'y a pas que cela. Bien au contraire, il faut prendre conscience que dans chaque difficulté, il y a un moyen de grandir, il y a un moyen d'évoluer, il y a un moyen de s'évaluer. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience.
Eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Franck, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Simplement vous remercier de ce moment passé et de vous inviter à continuer ce travail, à continuer cette démarche qui est remarquable. Félicitations à vous.
Nous vous remercions pour votre venue, votre action auprès des jeunes, et nous remercions également M. Jaillet, principal du collège, de nous avoir permis de venir interviewer M. Raviot. Merci encore à Franck Raviot pour le temps qu'il nous a consacré hier. Il est temps de nous quitter. Merci Brandon de m'avoir accompagné.
Merci à toi Kylian. Merci à Théo qui a préparé cette émission avec nous, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Merci à Nicolas, notre technicien sans qui l'émission ne serait pas possible.
On a oublié de vous dire, tout à l'heure, Elisabeth Andrès joue avec son partenaire demain soir à 20h à la Maison Verte. Vous pourrez voir deux pommes pour un chou, plein d'autres dates sur le Facebook de la compagnie du Oui.
Enfin, merci à tous nos invités et à l'équipe du dispositif relais. À bientôt, bonnes vacances.
Bonnes vacances.